I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ce qu'on comprend dans l'histoire de l'autre, on se dit « Ah merde, mais moi aussi en fait. Moi aussi j'ai vécu le même truc et je comprends pourquoi elle n'a pas réussi à traverser ce truc-là à ce moment-là. » Ou je comprends pourquoi elle a réussi. Et du coup, moi, ça me permet d'y voir clair et de faire un tri, d'avoir des déclics. Tout comme la discussion que j'ai pu avoir avec Vincent, de Diane, de dire... Ah ok, c'est normal d'avoir peur, je savais pas. Mais si je l'avais pas laissé parler, j'aurais jamais eu cette info. Mais c'est ça tout le temps. J'adore laisser les autres parler parce qu'en fait, j'ai des infos tout le temps. Sur moi, je crois.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Marion Mésadorian.
Ben oui, c'est ça.
Bah oui, c'est ça. Salut Marion, comment tu vas ?
Ben très bien,
ça
merci.
Ça fait plaisir de te recevoir dans Histoire de succès, vraiment c'est cool.
Merci beaucoup.
Marion, je suis venu voir ton spectacle.
Ah bah ça c'est une bonne nouvelle.
Ce qui coûte toujours vachement mieux.
Quoi. C'est alors, quand même plus sympa de quoi on parle.
Tu joues au Lucernaire,
oui.
Ce qui est ton premier show en fait, ton premier spectacle, c'est ça si
oui.
Je ne me trompe pas ?
Ouais, ouais.
Qui s'intitule Pépite.
Exactement.
Si vous comprenez pas trop pourquoi ça s'appelle Pépite, c'est vrai que c'est un nom marrant, Pépite pour un spectacle.
Oui, j'ai pas. Disons que c'est vrai que ça vient de l'historique de mon père qui cherchait à me faire chercher des pierres précieuses dans le jardin. Il les achetait en boutique, il les cachait dans le jardin et il me faisait croire que ça poussait vraiment chez moi quand j'étais toute petite. Et puis j'ai grandi avec cette idée-là. Et c'est vrai quand j'ai écrit le spectacle. Ben, je me suis rendu compte que je continuais de chercher des pierres précieuses tout le temps et c'est devenu des humains avec le temps où je passe mon temps à décortiquer les monologues des uns, les phrases perdues dans la rue des autres. J'adore.
T'écoutes partout, quoi. T'as les oreilles en permanence.
J'adore et puis ça me fait rire, ça me touche. J'ai l'impression de voir le monde et l'humain à travers plein de rencontres. Et je tournais un peu autour du pot en me disant qu'est-ce que je fais comme formule pour le spectacle. On cherchait une formule autour de Pépite. Et en fait, j'ai dit Pépite, ça ira très bien.
Et donc, effectivement, donc tu joues le jeudi, le vendredi et le samedi, c'est ça ?
Oui.
Au Lucernaire à 21h30.
Oui.
Au moins jusqu'à fin juin.
Exactement.
Et en gros, effectivement, ce show, tu viens y raconter des... Alors, tu as un fil rouge, bien sûr, où tu racontes une histoire et tu viens y interpréter des personnages que tu joues, qui racontent aussi une histoire à travers chaque perso. C'est vraiment très, très cool. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment passé un super moment.
Bah, merci.
Avec grand plaisir. Mais on va en reparler un petit peu après de spectacle. La première question que je voudrais te poser, c'est à quoi tu ressemblais, Marion, quand tu avais 7-8 ans?
7-8 ans, c'est précis comme âge.
Écoute, tu prends l'âge que tu veux, mais en gros, quand t'étais petite.
Quoi. Alors à 7, je pense que j'étais encore dans l'insouciance, et à 8, un peu moins.
Okay.
Parce que je vivais avec ma grand-mère italienne qui vivait chez nous, et puis elle est décédée quand j'avais 8 ans. Et je dormais même souvent avec elle, donc ça m'a fait un gros vide. Je crois que j'ai mangé, je crois qu'à 8 ans, j'étais un peu plus large qu'à 7. Donc comme tu dis 7-8 ans,
yes.
Je ne peux pas te dire, on est sur deux volumes différents à mon avis. Mais j'étais une petite fille, en tout cas, Très joyeuse, qui aimait déjà faire rire les copains. J'étais pas du tout leader d'un groupe, la meneuse. Bien au contraire, j'étais dans un groupe, mais je prenais un petit groupe dans le grand groupe pour les faire rire, quoi.
D'accord.
Donc, et puis c'était ma façon de permettre à ceux qui étaient un peu exclus de rentrer dans le groupe, de faire rire un peu. Je crois que j'avais du mal avec l'exclusion. Et quand je voyais celle qui avait les cheveux frisés, à qui personne ne voulait parler, celui qui était fils de forain, qui venait là que 3 semaines par an. Enfin, il y avait beaucoup de... Bah, on a tous été à l'école, hein. On ouais. sait ce que c'est, les fameuses phases d'exclusion ou de groupe commun. Et je crois que moi, je me suis toujours débrouillée pour jamais être exclue. Mais je ne supportais pas que les autres le soient, et l'humour est devenu un outil pour réunir les deux, quoi. Okay. Ceux qui voulaient exclure et ceux qui l'étaient.
Et comment tu faisais alors quand tu étais gamine ?
Ben, je crois que je gagnais le cœur de tout le monde en ne tapant jamais sur personne, mais en les touchant avec ce qu'ils étaient eux, chacun un par un. Donc, ça demandait de ne pas être le leader, je pense, en analysant. Ouais. Parce que le leader, il trace sa route et il fait pour le groupe général. Non, moi, je prenais un peu les gens un par un à comprendre comment ils fonctionnaient. Mais très tôt, quoi. Et puis, c'est vrai que je le fais encore aujourd'hui.
C'est toujours un truc que tu fais.
Ouais, je peux pas m'en empêcher. Je crois que j'ai pas d'adrénaline à monter sur scène. J'ai l'adrénaline à faire rire les gens un par un dans le quotidien.
Ah, ok.
Je crois la boulangère, le mec à la poste, un papy, un arrêt de bus, mon mec le soir quand je le vois, les gens au travail. Et puis quand je vois tout ça et quand je vois comment il fonctionne, je me dis, oh non, c'est trop drôle et ça m'a tellement trop touchée. J'ai trop envie de le jouer sur scène pour voir si ça vous fait la même chose.
Ah oui, donc
c'est une deuxième étape, la scène.
T'as pas d'adrénaline à monter sur scène, mais c'est...
Je suis hyper heureuse parce
t'as
que...
T'as le trac avant de monter sur scène
ou... Je l'ai eu beaucoup ouais. quand j'ai commencé parce que... Je me dis, mon Dieu, mais est-ce que ce texte va plaire ? C'est bien évidemment toujours la même chose. On a peur de déplaire, de pas être accepté, cette fameuse exclusion. Et de pas, ouais, de pas être compris, entendu, de pas divertir assez, enfin bref. Et puis quand ça s'est rodé, non, c'est vrai que j'ai plus de trac.
Okay.
J'ai plutôt la joie d'aller vite transmettre ce que j'ai entendu dans la journée.
Parce que tu mets à jour ton texte
Pas tant que ça.
Okay.
Mais par contre, c'est vrai que je l'actualise, oui, tous les 6 mois, je change quand même pas mal de choses.
Okay. Donc, parce que, bah, je sais pas si on spoil, mais en fait, c'est vraiment, les personnages que tu joues, c'est vraiment des personnages
Oh non, tu spoil rien du tout.
Bah, je sais pas, parce que...
Vrai.
Ouais, non, mais en tant que spectateur, on se rend pas forcément compte sur le moment où tu joues.
Je comprends. Qu'on se dise, oh, bah, c'est peut-être des gens inventés.
Ouais.
Ah oui, d'accord. Alors, on me le dit assez peu. Okay. Au contraire, on me dit assez souvent qu'on comprend que c'est mon père, ma grand-mère, ma pote, une personne que j'ai rencontrée dans la rue. Après, effectivement, on me demande beaucoup si l'histoire des pierres précieuses, est-ce que ça a vraiment existé ? Est-ce que mon père a vraiment caché des cailloux dans le jardin qui brillaient en me faisant croire que ça poussait chez nous alors que ça venait du Chili ? Et oui,
ceci
cette
dit,
histoire...
Pendant très longtemps, tu racontes dans le spectacle que pendant très longtemps, tu... T'as continué à regarder,
oui,
à chercher des pierres précieuses.
Bah oui, parce qu'après il m'en a plus parlé, et puis moi je continue à gratter les cailloux dans le jardin.
Jusqu'à 15 piges, c'est ça tu dis ?
Bah ouais, je crois que j'ai pas voulu...
Tu voulais rester en enfance ?
Je crois que ça m'arrangeait pas trop de grandir. Et puis, comme il y a quand même des petites pierres qui brillent sur nos chemins du Sud, avec Aix-en-Provence-Marseille,
ouais.
Ben je crois que ça m'arrangeait de croire qu'il y en avait des plus gros qui poussaient, mais que j'ai jamais réussi à trouver, quoi.
Waouh, trop cool. Est-ce que la grand-mère dont tu parles, qui est décédée quand tu avais 7-8 ans, c'est la grand-mère dont tu parles dans le spectacle ou c'est l'autre ?
Non, c'est ma grand-mère italienne qui est décédée quand j'avais 8 ans et ma grand-mère arménienne que j'incarne sur scène,
oui.
Elle est toujours là, elle a 83 ans.
Que tu incarnes avec Gambrio. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, une histoire qu'elle pourrait raconter à ta place ?
Qu'elle pourrait raconter à ma place ?
Ouais. Bah,
ma grand-mère, elle est souvent... alors c'est un personnage très dur qui effectivement il y a l'histoire du génocide du côté arménien,
oui.
Et puis ils ont vécu des choses très dures en Arménie, mon père est né là-bas, il est arrivé en France, il avait 10 ans, et c'est vrai qu'elle a une façon de parler qui est très dure, presque je vais pas dire sans émotion, mais elle s'interdit d'avoir de l'empathie, j'ai l'impression, pour pas être touchée et s'écrouler. Et c'est marrant parce que mon père, qui lui est un homme encore plus rustre au premier abord, a beaucoup plus les failles qui tombent, enfin les failles qui se mettent à jour, on va dire, que ma grand-mère, qui est beaucoup plus dure. Et qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Bah pff, surtout, bon, c'est vrai qu'elle, elle est par rapport à la famille, le couple. Typiquement, je me rappelle que quand j'étais oui, ce qui compte, c'est qu'on soit une famille, un couple, et qu'on divorce pas. Donc ça, c'est très important pour elle, qu'on se divorce pas pour une chaussette qui traîne parce que l'autre nous agace. Mais je me rappelle que quand j'étais étudiante, je travaillais dans une chaîne de prêt-à-porter. Mais je faisais, je sais pas, 20 heures par semaine. Et puis je disais, c'est bon, mamie, j'ai arrêté mon travail parce que je vais écrire mon spectacle et tout. Et je me rappelle que ce qui l'intéressait, c'était surtout de savoir que j'avais bien un copain et que je l'avais pas quitté.
Ah ouais.
et que je souffre au travail, on s'en fiche.
Ouais.
Il y avait vraiment tout ce truc-là où il faut la sécurité du couple et de la famille. Parce que il y avait peut-être aussi... Pourtant, ma grand-mère n'a pas été... les pôles financières de son mari, qui était mon grand-père. On aurait pu dire que c'est une autre génération qui dépendait vraiment du mari, mais pas du tout. Pourtant, elle a travaillé toute sa vie. Mais oui, c'est okay. Plus ça, quoi.
ça a marqué dans ta famille l'histoire du génocide, etc. Donc, tu crois dans la transmission familiale, quoi.
C'est une évidence, parce que c'est pas que c'est tabou, mais mon père n'en a jamais parlé.
Jamais.
J'ai jamais parlé de ça avec lui.
T'as jamais essayé?
Bah non, parce que c'est un non-sujet.
Ok.
Et puis moi, quand j'ai écrit...
C'est un non-sujet, le génocide, finalement.
C'est un non-sujet, okay. Mais d'un coup, quand on analyse les histoires des uns des autres, tout s'explique. Mais c'est ça qui me passionne, moi. C'est de dire, pourquoi mon père, il m'en a jamais parlé? Il n'est pas du tout en train de trembler si d'un coup j'annonce le sujet. C'est que lui, c'est une autre génération. Et quand il est arrivé en France, c'est... Il avait 10 ans, comme je disais, et puis il avait pour obsession de gagner de l'argent et faire vivre sa famille. Donc je crois que, comme je disais pour ma grand-mère, il s'est interdit, lui, à ce moment-là, de ressentir quelque chose de ce que deux générations plus tard, il y avait eu, donc son grand-père, pour pouvoir tenir la famille, réussir l'intégration en France. Et donc, oui, c'est vrai qu'au premier abord, on peut dire, dis donc, il est insensible à l'histoire de ses ancêtres. Mais pas du tout, c'est qu'il a fait comme il a pu. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que il s'est mis à travailler comme un acharné. Il est encore sur le sujet, 50 ans plus tard.
Ouais.
Mais parce que c'était son moyen à lui de sauver sa famille d'une autre manière. Et c'est vrai que chacun fait comme il peut. Ma grand-mère, elle transmet la parole. Elle, quand je lui ai posé des questions, elle n'avait aucune gêne là-dessus. Donc, ouais, c'est vrai que...
T'as essayé de demander à ton père d'où ça lui venait, cette histoire de pépites et de cailloux cachés, de pierres précieuses cachées? C'est fou, quand même.
Je lui ai pas demandé, parce que mon père passait son temps à nous inventer plein de conneries. Donc, en fait, c'est une connerie de plus, mais qui m'a marqué à moi, je pense. Donc, je crois qu'il... Une fois, il m'a dit, mais je me souvenais même plus que tu avais fait ça. Il s'en souvient, mais il imaginait pas à quel point ça aurait pu me marquer, quoi. Mais effectivement, non, il était toujours en train d'inventer 1000 trucs pour nous impressionner, pour être le héros de l'histoire, pour nous faire croire des trucs. C'était une autre vie magique à côté de sa vie très dure de travailleur, quoi.
Tu sais d'où ça lui vient, cette histoire de... Est-ce que son père lui-même lui racontait des histoires comme ça pour le faire un peu voyager ou...
Je ne sais pas.
D'accord.
Il faudrait que je lui demande... Je crois pas. Mon grand-père arménien, lui, c'est vrai que c'était un très bon orateur aussi. Je pense qu'il a transmis ça à mon père.
Ça vient de famille.
Ouais, ils aiment chanter, ils aiment communiquer, parler fort, être audible. Mais
c'est pas ton style, pourtant.
Pas du tout.
Non,
écoutez,
pas du tout.
Voilà, pourquoi est-ce qu'on est là? Je ne sais pas. Mais oui, je sais pas. Je pense qu'au contraire, mon père. A dû manquer un peu de rêverie très tôt et est rentré dans le monde adulte beaucoup trop tôt. Et donc, s'est réinventé une vie fantastique à travers nous, je crois.
Okay.
Et donc, les pierres précieuses font partie de... Non, mais vraiment, il me faisait croire aussi que quand j'étais petite, quand il revenait du marché, qu'il travaillait sur les marchés, Il vend des fruits et légumes. À 14h, il revenait avec le sachet du poulet avec le jus et pommes de terre dedans. Il y avait écrit boucherie Roger. Et il nous faisait croire que le poulet, il l'avait trouvé en train de courir le long de la forêt, le long de la route en revenant du marché. Et qu'il lui avait, il a garé le camion, il lui courait derrière, il l'avait attrapé, il lui avait tordu le cou. Je me rappelle très bien parce qu'on était traumatisés quand il nous disait qu'il lui tordait le cou. Et qu'il l'avait déplumé, qu'il l'avait mis à la broche, qu'il l'avait fait tourner à la broche et que seulement après, il était venu. Et bien évidemment, on ne savait pas lire, hein, boucherie Roger sur le papier, donc on s'est dit, oh, c'est incroyable. Et ça, mais c'est un milliard d'histoires comme ça. Et donc, bon, voilà, il y en a plein.
Tu crois que ça a contribué à ton envie justement d'écouter les histoires des gens,
c'est
de faire
possible.
Attention à ce que les gens te racontent, etc. Quoi.
C'est fort possible. Ma mère adore écouter aussi les histoires des uns des autres. Mon père a plus la... Ma mère aime beaucoup écouter, mon père aime bien inventer.
Ok.
Avec un rien, inventer des histoires et surtout partir dans l'imaginaire et ne plus laisser le choix à la réalité. Et c'est un conteur, quoi.
Ouais, mais j'ai un peu l'impression que t'es un peu pareil parce que finalement, ton spectacle, effectivement, t'as écrit la trame, etc. Oui. Mais en fait, les personnages que tu joues, c'est des vrais personnages.
Oui.
Tu reprends même des vraies expressions. Enfin, je spoil pas la fin, mais tu reprends des expressions, etc. Enfin, on sent vraiment que t'as aussi un truc de transmission au-delà de... Et bien sûr, tu joues, quoi. Mm. Où tu racontes l'histoire de ces gens, quoi.
Oui, ben, c'est ça qui m'a plu, c'est de me dire... quand j'écoute les gens, moi aussi, je pars en voyage, je suis au cinéma... J'écoute les portraits des uns des autres. Et souvent, on se dit, parce que c'est des espèces de monologues, mais finalement, dans la vie, c'est la même chose. Hein. Souvent, on lance quelqu'un sur une phrase, si on ne l'arrête pas, ça peut faire 20 minutes qu'il papote. Hein. Donc, sur un spectacle d'une heure, ça peut aller très vite, si on en met 4-5. Et c'est vraiment des gens à qui j'ai pas fait beaucoup de relance. Hein. En général, ça part tout seul et ça parle tout seul, quoi. C'est incroyable quand d'un coup on se laisse aller, on se dévoile, on donne notre avis et il y a des grands moments de silence, des grands moments de doute. Moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère. Et de voir ces moments de réflexion et c'est à crever de rire. En même temps, ça donne les poils parce qu'on voit tout ce qui se passe dans la tête des gens.
Mais c'est parce que t'écoutes, tu crois? T'écoutes bien?
J'essaie. Je crois que... Je crois que je suis passionnée par ça. Après, ben, je suis humaine comme tout le monde. Je dois passer à côté de plein de choses puisque je ne suis pas qu'un enregistreur permanent. Je suis là, moi aussi, avec mes émotions à vouloir qu'on m'écoute aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait un spectacle. Je dis, oui. C'est bon, hein, j'ai écouté tout le monde, maintenant c'est à moi. Hein. Donc, je vais vous dire tout ce que j'ai entendu, on va se poêler. Mais du coup, oui, j'écoute, ouais, j'adore ça. J'écoute et puis j'ai comme tout le monde des phases où je parle trop.
Bah au moins pendant une heure et quart.
Voilà, au moins.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'aimerais bien comprendre comment t'en es venu à te mettre au théâtre. Dans ton parcours, genre collège, lycée, il y a un moment donné où tu te dis, tiens, en fait, c'est un truc qui me plairait bien de monter sur scène.
Je pense que c'était... je crois que c'était une envie qui grandissait depuis toujours. Comme je l'explique souvent, comme j'ai une famille qui est très méditerranéenne, du côté de ma mère, ils sont italiens, siciliens, mon père arménien, ils sont tous arrivés par la mer. C'est à Marseille, donc ça parle avec les mains. Enfin, il y a vraiment une grande expression corporelle, une projection vocale. Enfin, vraiment, tout y est. Hein. On n'a pas de problème en termes d'exercice technique de comédien.
Il fallait prendre sa place au sein de la famille?
Je pense un petit peu, hein, okay. Parce que... Ouais. Mais, et encore, j'avais qu'un frère quand j'étais petite. Après, mon père s'est remarié, donc j'ai d'autres sœurs d'un autre mariage, mais j'étais plus grande, donc on n'était pas non plus dans une fratrie de 8 où il fallait absolument exister là-dedans. Non, pas du tout. Mais effectivement, oui, je sais plus ce qu'on se disait.
Non, je te demandais comment t'en étais venue à faire du théâtre.
Ben, y a effectivement tous ces gens... ma famille, mes amis très méditerranéens qui sont des sketchs ambulants. Qui me faisait... C'est vrai que j'ai beaucoup ri, moi aussi, pendant mon enfance. Et puis, j'ai eu cette chance-là, que d'une scène quotidienne, ma tante et mon oncle en fassent un sketch, une scène de ménage improvisée. Et puis après, on m'a fait découvrir très jeune aussi Élie Kakou et Gad Elmaleh. Donc, c'est vrai que le premier spectacle d'Élie Kakou et de Gad Elmaleh, Décalage, sont la suite, la continuité de la vie que j'ai d'un coup vue sur scène avec des costumes pour l'un, Élie Kakou, et pas du tout de costume pour l'autre, Gad Elmaleh, qui lui, dans une tenue noire et sans décor, était un vrai conteur. Il avait 25 ans et il en voit vraiment...
Dans son premier spectacle, il raconte son parcours
entre le Maroc, ouais, le Canada, ça. Paris. Il incarne, mais je ne sais pas, une quarantaine de personnages, je pense. C'est la folie, franchement, c'est incroyable. Il se transforme et sans rien, quoi. Et je crois que j'ai adoré ça. J'ai grandi avec ça. Et puis quand j'ai eu 18 ans qu'il a fallu trouver une orientation, ça faisait déjà 2 ans que je m'étais rapprochée du théâtre de rue de mon village. Donc c'était très tardif.
Tu montais sur scène quand même un peu
Au collège, j'ai pas osé. Okay. Au lycée, je m'y suis mise. Et après, sur ces 2 années de collège, où j'étais dans mon association de village, où on mettait des tréteaux sur les places de village et puis on jouait l'été. Et puis après, ouais, je suis montée sur Paris et puis je me suis formée.
D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme formation ?
Je suis montée sur Paris, j'ai fait 1 an au cours Florent. Et puis après, j'ai fait 3 ans dans un autre cours d'art dramatique qui s'appelait le cours des théâtres associés avec Philippe Chauveau et Jean-Jacques Deveau. Et c'était très chouette. C'est 2 comédiens qui montaient aussi leur cours. C'était plus intimiste que le cours Florent. J'ai passé une très bonne année au cours Florent, mais trop de monde. Oh là là, c'est sympa de regarder les autres, mais t'as quand même envie de jouer.
Ah oui, vous devez forcément tourner pour...
Ouais, c'est trop long quand il y a trop de monde. Donc, Christine Farinck, la prof que j'avais cette année-là, était merveilleuse. Mais c'est vrai que j'ai pas signé pour une deuxième année parce que c'était trop long, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup joué, moi, mais j'ai vu beaucoup de gens rester au fond de la salle et de la classe. Et je me suis dit, oh là là, non... Enfin,
pourquoi t'avais beaucoup de chance il faut que tu t'imposes, c'est ça, dans les cours Florent, j'ai jamais fait, moi, tu sais. Mais...
Alors attends, comment c'est pas alors non, c'est qu'en fait, au début, on fait beaucoup d'exercices. Après, on fait une espèce de spectacle mi-semestriel où tout le monde joue. Puis en fin d'année, on nous demande de préparer des scénettes de 5-6 minutes. Et donc, c'est rarement des monologues pour que tout le monde passe. Et donc, si ce sont des duos ou des trios en scénette, bah, on va chercher les partenaires qu'on souhaite. Et dire, est-ce que tu veux bien jouer mon mari? Est-ce que tu veux bien jouer ma voisine dans cette scène-là? Et j'ai été très demandée. Donc...
Comme dans une soirée, une boum, finalement.
Comme dans une boum.
Vous voudriez bien m'accorder cette valse?
Oui, et ben j'étais plus demandée qu'en boum, figure-toi. Et je vais te dire que c'était une bonne chose. J'ai dû trouver ma voix. Et puis, non, vraiment, j'ai été très demandée. Et c'est vrai que du coup, c'est des mois entiers où en cours, tu dois répéter avec la prof. Donc, je répétais avec l'un, avec l'autre, l'un. Donc, j'étais souvent sur le plateau. Et puis, j'ai adoré. Mais je me suis dit, oh non, on va pas repartir sur une deuxième année où il y a trop de monde. Et j'aimais, moi, le côté un peu plus... resserré à 10-12, où on apprend, on regarde, on rejoue tout de suite. C'était plus une question du nombre, quoi.
D'accord. Et assez rapidement, t'as envie de monter seul sur scène? T'as toujours ce truc d'Élie Kakou, ouais, et de Gad Elmaleh en tête?
Je suis montée sur Paris pour ça.
Ah ouais?
Ah oui, c'est une fin en soi, hein. Très clairement. Je voulais vraiment me former en tant qu'actrice. Pour apprendre à jouer, apprendre la technicité, qu'est-ce que c'est la dramaturgie. J'avais pas du tout en tête de faire une école de one-man show parce que ça m'intéressait pas, j'avais envie d'apprendre à jouer tout simplement. Et puis, c'était un objectif de vie. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis humoristes qui me disent bon, je fais ça parce que j'avais pas de boulot, je réussissais pas mes castings, donc ça m'a saoulé. Non, moi pas du tout, hein. Je suis montée sur Paris pour faire ce spectacle. Et quand je suis montée sur Paris, j'avais 18 ans et je m'y suis mise qu'à 27 ans à l'écriture.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps?
La vie.
La vie.
La vie, écoute.
Non, mais tu faisais quoi? T'avais peur d'y aller? C'était...
Ouais, j'avais peur. Après, j'ai chargé la mule. Hein. J'avais les cours d'art dramatique pendant 3-4 ans. En parallèle, j'ai fait un bac plus 5 dans le financement de la culture. Donc, j'avais quand même une double formation. Et puis quand j'ai fini ma formation, je me suis lancée dans un job alimentaire dans le fameux prêt-à-porter où je me suis dit bon bah allez, je fais ça et puis en parallèle je passe des castings pour être comédienne quoi. Bon, chose que je n'ai jamais fait, passer des castings, être seule dans cette jungle quand on commence à faire beaucoup d'heures à côté dans un job, finalement on fait jamais rien. Et puis je me suis lancée à vraiment écrire mon spectacle à un moment en me disant si tu le fais pas, tu le regretteras toute ta vie, t'es venue pour ça. Donc on a tourné autour du pot longtemps, on y va. Tu t'es formée, t'as même fait la fac jusqu'au maximum. Là, c'est bon, tu peux plus te cacher, on y va.
Puis-je faire un bac plus 12 hein.
Voilà, ça n'existe pas, donc ouais. C'est chiant. Et ouais, je me suis lancée, je me suis dit, bon, pose-toi à une table et il faut écrire parce que ça commence par ça.
Il y a un déclic pour toi, tu vois, de te dire, ok, maintenant il faut y aller ou il se passe un truc en particulier ?
J'avais très peur. Et puis, j'ai rencontré Vincent de Dienne. On était à un dîner chez un ami en commun. C'était il y a 8 ans, en 2014. Et lui, il allait commencer à jouer son premier spectacle sur Paris, 6 mois plus tard. Et en fait, je lui ai dit, il me dit, ah, j'ai peut-être trouvé un producteur, c'est peut-être Laurent Ruquier qui va me produire. Donc, c'était il y a 8 ans. Ouais. Donc, c'est marrant parce que hier, il a eu le Molière de son deuxième spectacle. Et puis, je lui ai dit, mais toi, comment tu as fait pour écrire? Est-ce que tu avais envie, tu avais peur? Est-ce que tu avais peur? Il me dit, oui, j'avais peur. Mais si tu attends de plus avoir peur, tu le feras jamais. Puisque justement, si tu as peur, c'est ce que tu dois faire.
Ah.
Et donc, je me suis dit, ah oui, c'est pas con le côté... si on attend de plus avoir peur, on fera rien. Et puis, il avait des propos qui étaient les miens dans la sensation. Je me suis dit, ok, on partage la même vie, le même nerf de guerre dans l'envie d'y aller. Je me reconnais là-dedans, il faut que j'y aille. Et je me suis mise à écrire. J'ai écrit pendant 2 mois tout l'inventaire de ma vie. J'avais 100 de pages. Et puis après, j'ai trié. J'ai rencontré un premier metteur en scène. On a fait des scènes ouvertes, une audition. Voilà. Et puis j'ai joué dans un théâtre, un premier, un deuxième, un troisième. J'ai rencontré un producteur. Enfin, ça a été une épopée de 4, 5, 6 ans aujourd'hui. Mais
t'as commencé à jouer en 2016, c'est ça, Bépi ?
Janvier 2016, ouais. Okay. Ouais. Et puis voilà, entre ces 2 années-là de préparation, il y a eu l'écriture et puis il y a eu la réflexion. Mais c'est vrai qu'il a fallu traverser cette phase de peur du jugement.
Ok.
Et puis quand je...
De peur du jugement ?
Ouais. Je me jugeais moi-même, de me dire mais ça va pas être drôle, ça va pas être intéressant, qu'est-ce que j'ai à raconter. Et c'est que des phrases comme ça qui font qu'à aucun moment il y a un mot qui arrive à se poser sur une feuille, quoi. Et puis quand on lâche ça et qu'on se dit non mais ça suffit, en fait faisons et on verra bien. Et au pire, ça sera nul, ça restera mon jardin secret. Au mieux, ça sera un spectacle.
D'accord.
Donc, c'est un peu ce qui s'est passé.
Et t'avais en tête déjà d'avoir des personnages, ou alors parce que c'était pas du tout, c'était plutôt la mode au stand-up. Donc, tu prends un micro et tu finis par parler en tant que Marion, quoi.
Moi, je savais pas ce que c'était le stand-up quand je me suis mise à écrire, et ça me semblait.
En 2016, tu savais pas ce que c'était le stand-up?
Non.
T'avais pas.
Okay. Pour moi, il y avait des humoristes.
Ok.
Mais le stand-up, non, tu vois, ouais. Je sais pas. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait qu'un comédie club à Paris. Hein, c'était le Panama Café. Aujourd'hui, ça a fleuri comme des boulangeries. Mais je veux dire, il y a 6 ans, c'était tout récent. Farry commençait à se faire connaître, ouais, très, très légèrement, au point virgule. Et non, moi, je suis arrivée avec en bagage Elie Kaku, Gad Elmaleh qui faisait des personnages. Je ne savais même pas que Gad Elmaleh faisait du stand-up après. Mmh. et donc, non, je... Puis même aujourd'hui, quand je ferai un deuxième spectacle, je ferai pas du stand-up. Ça ne traverse pas l'esprit. Ce n'est pas ce qui me fait vibrer.
Okay.
Même si mes copains le font très bien, ce n'est pas ce qui me fait voyager.
Et ce qui te fait voyager, toi, c'est vraiment...
D'incarner
les gens.
Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Quand je suis dans le corps des autres, c'est génial.
Tu te sens vraiment dans le corps des autres ?
Ouais, ça fait trop du bien. Franchement, quand je joue, c'est 1 heure de massage, quoi.
C'est vrai ?
Ouais. C'est vraiment 1 heure de massage parce que quand je les incarne, je suis obligée d'être dans leur respiration à eux. Moi, j'aurais tendance à parler, à débiter. Ma grand-mère, elle laisse des longs silences. Hein. Sans gêne. Elle va regarder les autres, si elle parle, si elle en a envie. Le reste, s'il y a un silence et que ça te gêne, c'est ton problème. Et ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, mais quand je m'oblige à l'observer et à être elle, bah c'est très reposant puisque ça arrête enfin mon rythme à moi qui est beaucoup trop soutenu. Et parce que bah c'est ma personnalité, je suis plus jeune, c'est mon tempérament, enfin bref. Mais quand je joue un petit garçon, quand de 4 ans, quand je joue mon père au marché, c'est aussi vachement reposant mon père parce que il a cette espèce de force où il a raison tout le temps. Donc il se remet pas en question sur certaines choses à part si on le pique sur un truc trop émotionnel. Et quand je suis dans le corps des autres, je suis obligée d'attaquer leur vocabulaire, leur champ lexical, leur regard. Ils ont pas du tout le même positionnement de regard. Il y en a, ils regardent droit dans les yeux, ils lâchent pas. Il y en a, ils regardent toujours leurs pieds, ils évitent. Et c'est assez reposant parce que c'est plus moi. Et c'est la deuxième étape d'adrénaline que j'ai. C'est premièrement, j'aime les faire rire eux pour que le monologue continue dans la vraie vie, pour en savoir toujours plus sur leur fonctionnement. Et après, je me dis, mais comment il a dit ça déjà? Il faut vraiment que j'arrive de manière brute à le retranscrire, quoi. Et de la manière la plus juste possible.
Est-ce que c'est une façon comme une autre de... aussi de te cacher quelque part derrière toi en tant que Marion, derrière ces personnages, et que tu as eu envie de te dire bah, en fait c'est d'autant plus simple pour moi de monter sur scène que je suis pas moi, quoi.
Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, jouer les autres, c'est des moments où je suis pas moi, donc c'est parfait. Donc je me cache. C'est comme des costumes ou des masques que je mets.
Puis j'allais dire c'est encore différent parce que c'est pas des personnages que t'as inventés.
Oui.
C'est des personnages qui existent. Donc c'est des personnages qui sont pas dans ta tête. C'est des personnages que t'as devant toi.
Et que j'ai devant moi. Mais c'est bien mieux pour moi. J'arrive, je les projette et j'ai toujours pas de lassitude à les incarner parce que pour moi, je les fais revivre. Ils réexistent à ce moment-là. Et comme c'est une parole qu'ils ont vraiment eue, j'essaie de l'honorer chaque soir et de lui donner vie, quoi.
Je te disais, c'était une façon pour toi aussi de te planquer derrière eux, c'est ça?
je parle quand même de moi. Mon parcours est une excuse pour les incarner. On pourrait dire aussi l'inverse. Les incarner est une excuse pour me parler de moi. J'imagine qu'il y a les deux. Que c'est, écoutez-moi, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'en fait, vous êtes trop fun. Donc, je sais pas, je joue les autres. Et... moi, c'est ça que j'ai à dire, c'est qu'en écoutant les autres, il y a tellement de beaux moments qui sont incroyables, qui nous font réfléchir, qui font un miroir sur nos vies.
Dans quel sens?
C'est-à-dire que quand j'écoute quelqu'un parler, on a l'impression qu'on... souvent, les phrases qu'on entend... Non, mais ça c'est trop long à t'expliquer, ça, c'est compliqué, ça, tu peux pas comprendre ça. C'est des phrases qu'on entend beaucoup. Si, je peux comprendre, parce qu'en fait, si tu le savais, je vivais la même chose que toi. Et souvent, même si c'est pas les mêmes faits, c'est les mêmes émotions qui sont connectées. Donc, on se reconnaît et ce qu'on comprend dans l'histoire de l'autre, on se dit « Ah merde, mais moi aussi, en fait. Moi aussi, j'ai vécu le même truc et je comprends pourquoi elle a pas réussi à traverser ce truc-là à ce moment-là. » Ou « Je comprends pourquoi elle a réussi. » Et du coup, moi, ça me permet d'y voir clair et de faire un tri, d'avoir des déclics, tout comme la discussion que j'ai pu avoir avec Vincent, de Diane, de dire « Ah ok, c'est normal d'avoir peur, je savais pas. Mais si je l'avais pas laissé parler, j'aurais jamais eu cette info. » Mais c'est ça tout le temps. J'adore laisser les autres parler parce qu'en fait, j'ai des infos tout le temps. Sur moi, je crois. Donc c'est ça qui m'excite, c'est d'avoir des infos, je pense, sur moi, parce qu'on est quand même centré sur nous et nos émotions. Mais à travers les autres. Donc, en fait, ils sont un divertissement bienveillant et merveilleux à chaque instant. Alors, chacun nous envoie ses pics à la gueule, d'une manière ou d'une autre.
Ses pics, tu veux dire?
Chacun a sa façon de parler.
Oui.
Donc, y en a, ils vont se dévoiler de manière douce, bienveillante. D'autres, pas du tout. Ils sont comme ça. Ils parlent. Mais moi, j'adore. Je trouve ça génial. Et puis, il y en a, on va dire les trois quarts, on met tous ce fameux masque social pour cacher les blessures, les failles et tout ça. Et moi, ce que j'aime, ce que j'appelle pépite et ce que je mets dans le spectacle, c'est le moment où le masque tombe. Et où d'un coup, on voit tout ce que la personne pense et qu'elle ne dit pas. C'est ce qu'on voit souvent à la caméra au cinéma. La caméra, elle va prendre en portrait ce que l'acteur ne dit pas, ce qu'on peut voir chez Bacri, chez Cluzet, chez des grandes comédiennes aussi. En ce moment, on a aussi Camille Cotin, Laure Calamy à l'affiche. Et j'adore ces moments où il y a juste le regard qui parle, qui s'écarquille, une respiration qui augmente. Et c'est des détails que j'ai envie de mettre sur scène, même si on est censé être sur un volume plus grand. Mais donc le rire à tout prix m'intéresse pas. C'est pas une fin en soi, c'est un outil.
Ok. Comment tu fais pour faire en sorte que les gens ils fassent tomber leur masque, comme tu dis ?
Eh ben avec le rire.
Ok.
C'est mon outil à moi. D'accord. Que j'ai développé depuis toute petite, c'est que en les faisant rire, mais en les faisant rire, en montrant la contradiction de leurs propres propos. Et du coup, ils se sentent démasqués. J'écoute beaucoup au début pour avoir 2-3 infos de la personne. Et puis, dans les 5 minutes, j'arrive à reformuler la chose avec autre chose dans un différent contexte où la personne, elle comprend que non seulement j'ai compris ce qu'elle m'a dit, j'ai retenu les informations et puis j'arrive à le remettre dans un autre contexte où ça la fait rire, ça la désarme et elle se sent en confiance et elle se livre, quoi. Alors, le but, c'est pas d'extorquer tout le monde. Mais c'est vrai, c'est de créer un lien humain, un moment de confidence... qui, moi, m'est chère et en fait, c'est ma vraie adrénaline quotidienne, quoi.
Ok. Ton père, ta grand-mère, enfin, tous les gens que tu incarnes, ils sont venus te voir d'une manière ou d'une autre
Oui, c'est...
C'était quoi leur retour?
Oui. Écoute, alors mon père, effectivement, qui a un beau portrait dans le spectacle,
oui.
Il s'en prend plein la tronche.
C'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre. Non, mon père, ma grand-mère sont venus voir le spectacle en même temps, dès mes débuts en janvier 2016. Et puis, ils ont peu l'habitude d'aller au théâtre. Mon père, donc, est commerçant primeur, qui vend des fruits et légumes. Quand il est sorti là, ça faisait quand même un an que je disais j'écris un spectacle. Donc, il se dit qu'est-ce qu'elle fout celle-là à part boire des sirops en terrasse. J'ai pas compris ce qu'elle écrivait. Et à la sortie, donc, il voyait tout le monde qui riait pendant une heure. Et donc, il devait serrer les dents en disant pourquoi les gens rient? C'est ma vie, c'est pas drôle du tout. J'ai pas compris qu'est-ce qui est drôle là-dedans. Et puis, il a rien dit le soir même. Les gens disaient ah, bah, bravo à votre fille et tout. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Et le lendemain, je lui dis mais papa, ça va, c'était bien, ça t'a plu quand même.
T'avais un peu peur de son...
Ben, on a peur des premiers mots, c'est-à-dire que de toute façon, j'attendais pas son accord, c'était trop tard. Mais on a envie d'avoir l'approbation, l'amour, le soutien, et pas avoir quelqu'un qui dise ce que tu fais, c'est vraiment de la merde, on n'y croit pas, c'est hyper dur de la part de nos maîtres, nos parents. Et du coup, non, le lendemain, je lui dis oui, ça t'a plu, et il me dit non, le produit, il est bon. Comme s'il vendait des fraises ou des ananas. Il me dit, mais sinon, vas-y, hein, t'as pas besoin de t'excuser quand t'es sur scène, dans la façon de jouer, dis ton texte, t'es là avec tes mains, tu les caches, non. En fait, il m'a fait un retour de metteur en scène.
Très bon retour.
Alors qu'il vend des fruits et légumes. Et j'ai halluciné, je m'attendais pas à ça. C'était presque un retour pour dire, bah, va plus loin. Mm. Va plus loin et n'aie pas peur. T'as décidé d'écrire, bah joue et prends ta place. Ah ouais, ok, bon bah d'accord. Et puis
c'est un truc très intuitif, hein, c'est-à-dire que même si tu connais pas le métier, je crois que ça se voit à travers.
Ouais.
Peut-être t'étais en train de t'excuser ce soir-là de jouer devant lui en fait.
C'est vrai que jouer devant nos parents, surtout quand on parle d'eux, c'est compliqué. Ouais. Donc je pense que je devais avoir une certaine retenue en plus ce soir, plus le fait que ce soit les débuts. Ouais. Bref, c'est vrai que c'est particulier. Et puis ma grand-mère qui elle. Je sais pas si elle a déjà été au théâtre, mais avant mon spectacle. Et du coup, elle parlait pendant le spectacle. Sachant que mon premier spectacle, mes premières dates étaient quand même dans une salle de 45 places, donc autant vous dire que le premier qui se mouche, on entend tout. Et donc elle parlait, elle pensait qu'elle était à la télé, devant sa télé,
elle
seule dans son salon. Elle commentait. Mmh. Ah, ça c'est pas vrai, hein. Ça c'est vrai. Et puis, à un moment qui est plus dans l'émotion, là, on l'entendait plus du tout parler. Et à la fin.
Sa mamie, elle était touchée, hein.
Oui, c'est ça. À la fin, elle me dit le lendemain, mais comment tu as su ça, ce que t'as raconté à la fin? Je dis, mamie, mais tu me l'as raconté l'autre jour. Je l'ai noté et je l'ai remis tel quel parce que c'était trop beau et que moi-même, j'aurais jamais réussi à réécrire quelque chose d'aussi simple et épuré et la vraie vie, en fait. Donc, elle était touchée par ça. Donc,
C'est vrai que t'as aussi des moments très touchants dans le spectacle. Effectivement, on rit et puis on est touché, quoi. Non, mais c'est vrai, ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf en termes d'émotion, quoi.
Ouais, j'ai pas mal de gens qui pleurent à des moments dans le spectacle, à la fin aussi. Ça m'arrive de devoir consoler des gens aussi à la sortie. Ouais. Ça remue un peu, quoi.
Bah, tu parles de liens et tu parles de famille, tu parles de plein de choses. Donc forcément, ça vient toucher des trucs chez les gens, quoi.
C'est ça, ouais, c'est vrai. Et je suis convaincue qu'on peut être percutant sans faire un buzz, un bad buzz, ou sans piquer les gens, sans leur arracher la gueule, quoi, tu vois. Franchement, en tout cas, j'ai pas d'adrénaline à faire ça. C'est en ça où c'est compliqué pour moi de trouver ma place aussi en tant que chroniqueur télé ou radio, parce qu'on a que 3 minutes pour faire le job, souvent lié à l'actu, que ce soit une humeur, un portrait de quelqu'un qui arrive ou quoi. On a 3 minutes pour qu'il y ait de la vie et donc de l'humeur. Faut souvent tailler, quoi. Faut y aller. Et, j'ai du mal, moi. J'ai pas d'excitation à faire ça. J'ai déjà fait l'exercice des chroniques, ça me plairait beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout d'adrénaline à aller piquer.
Parce qu'il faut expliquer, mais souvent les humoristes se retrouvent effectivement à l'antenne, dans des radios pour faire des chroniques. Ça leur permet de pouvoir se faire connaître,
exactement,
de pouvoir remplir les salles, etc.
Totalement.
C'est un chouette outil de promotion.
Ah ouais.
Mais j'ai l'impression que toi, t'es plutôt dans un temps long. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais écoute, ça se confirme.
C'est un compliment quand je te dis ça.
Merci.
C'est plutôt, j'ai l'impression que tu as conscience que c'est un marathon, tu vois,
oui.
et que ça va prendre du temps d'installer le truc, et qu'en fait, tu préfères faire ton truc qui te plaît à toi, avec de l'émotion, peut-être avec moins de grands. Enfin, c'est, encore une fois, que tu dis, tu montes sur scène, t'es dans le noir, t'as pas de chichi, c'est vraiment très épuré, t'as juste un tabouret.
Oui, c'est ça. J'adore cette idée de devoir incarner pour créer la magie. Et pas d'avoir besoin de 1000 costumes, même si j'en rêve et que ça me fait plaisir. J'aimerais bien avoir 1000 accessoires, des costumes, des perruques. Mais finalement, mon souhait le premier, c'est de n'avoir rien et de devoir créer avec une respiration, un regard, une tenue, un corps. J'ai plus d'adrénaline à faire ça qu'à porter un costume.
Oui. Oui, effectivement, la façon dont tu te tiens sur scène en dit déjà vachement plus long que si tu avais une perruque ou un costume, quoi.
Ça invite moins à la rêverie, à l'imagination, quoi. Les choses sont posées. Mais ouais, c'est vrai que...
On peut parler de ton agent de cinéma.
Mais bien sûr, alors.
Que t'incarnes dans le... Que t'incarnes...
Oui, dans le spectacle, je dis pas que c'est mon agent, je dis j'ai rencontré telle personne et quand elle m'a dit ciao, je me suis dit je vais me mettre au babysitting vu que apparemment ça le fait pas avec cette dame. Et c'est vrai que oui, c'est des profils que j'ai rencontrés.
T'as pas dit que c'était que c'est ton agent? Putain, j'ai fait le lien sans.
Non, mais tout le monde me dit c'est mon agent, mais c'est vrai que dans le spectacle, je dis j'ai rencontré différentes personnes ont des agents et dont un qui était Pépite. Et puis à la fin, je pars du bureau, mais c'est pas mon agent, puisqu'elle veut pas me faire travailler, elle veut prendre des gens qui brillent un peu plus.
Ouais.
C'est ça le problème de ce métier, mais qui finalement n'est pas que le problème de ce métier. Dans chaque profession, c'est celui qui brillera le plus qui aura l'intérêt des autres, quoi. Donc là, quand elle lit mon CV, qu'elle voit que j'ai joué une paysanne et un saumon géant dans une pièce fin fond de la kermesse de Saint-Cana, non, vraiment, elle rêve pas encore au Molière et au César avec ma tronche. Donc elle dit oui, alors n'hésite pas à faire des trucs et puis tu me rappelles après. Mais oui, c'est vrai que c'est un personnage très faux cul. Alors là, on parle de masque social. Oui, alors elle en a un. Hein. C'est je fais tout pour te faire croire que ça m'intéresse. Mais si dans la discussion, dans les 3 minutes, les 3 pauvres minutes que je t'accorde, je me rends compte que tu m'intéresses pas tant, ça dégage. Allez, ça dégage.
T'as passé par... T'as joué deux rôles, c'est ça, au cinéma, pour l'instant?
Oui, j'ai même fait un film de zombies à mes débuts.
Ah ouais, j'avais pas.
Qui s'appelle Super Z, mais qui est jamais sorti, alors on l'espérerait. Et puis sinon, oui, j'ai tourné dans un film qui est sorti en janvier 2020, un film de Mohamed Hamidi qui s'appelle Une belle équipe, avec Kad Merad, Sabrina Ouazani, Céline Salette, Laure Calamy. Il y avait Alban Ivanov aussi. Enfin, on était pas mal, on jouait une équipe de foot féminine qui remplaçait l'équipe masculine qui jouait nos maris du village. Donc, les femmes reprenaient les entraînements.
Yes.
Donc, c'était très fun. C'est une très belle comédie familiale et sociale qu'on a tournée en 2018, qui est sortie début 2020. Et puis, j'ai tourné dans un deuxième film qui est sorti en novembre dernier, qui s'appelle « Si on chantait » de Fabrice Maruca, avec Clovis Cornillac, Artus, Alice Paul... Donc, Jérémy Lopez, voilà, c'était une belle brochette. Et eux, pour le coup, ils chantaient. Voilà, c'était un film sur le chant. Donc, un film sur le foot, un film sur le chant. Voilà, il y a des spécificités comme ça. Ça devient la Starac, ce métier. Donc là, je me prépare au volley-ball et au cheval, tu vois.
Dans un remake de Jeanne et Serge.
Voilà, exactement. Mais oui, j'adore tourner parce que c'est justement propice au silence et au regard. Et à incarner des nouvelles pépites tout le temps, quoi. Donc ça, c'est le pied total, quoi.
C'est quoi ton envie parce que ça va faire 6 ans maintenant que tu joues ce spectacle.
Ouais,
t'as envie de continuer à le jouer encore quelques années ou...
Oui, bah, ce qu'on aimerait, c'est le porter au plus grand nombre. Donc ça, cette pépite-là, je ne l'ai pas trouvée encore. Tu vois, cette clé-là, il faut que je la trouve. Comme je te disais, j'ai du mal à aller forcément faire forcing en tant que chroniqueuse. Si ce n'est pas mon chemin, je tente. Mais si je ne trouve pas l'émission qui me correspond... je vais pas forcer à tout prix de faire quelque chose qui me correspond pas, même si on me file des co-auteurs, si c'est pas moi, ça m'intéresse pas. Même si le but étant pas d'avoir de la notoriété, le but, il faut quand même gagner en médiatisation pour remplir sa salle et du coup porter le message, quoi. Mais c'est vrai que c'est en ça où la médiatisation est importante. On m'en dit plus le remplissage et puis on peut augmenter les volumes de salle et rencontrer les gens de plus en plus, jouer, envoyer le texte à un plus grand nombre, quoi.
C'est un vrai truc compliqué pour toi de te dire d'aller trouver ton public, d'aller trouver un public pour ce spectacle.
Ben en fait, c'est pas tant trouver un public puisque le public il est là et puis j'ai l'impression qu'il est toute génération pour ma part. Donc c'est pas tant ça, c'est trouver l'emplacement médiatique qui me correspond. Qui est ma place, qui me correspond où je me trahis pas et quand les gens viennent à mon spectacle disent mais aucun rapport, c'est que
ouais.
Moi j'ai mis sa chronique, j'ai rien compris à son spectacle, ouais. Tu vois, faut quand même être cohérent sur ce qu'on fait dans les choses et puis en fait la cohérence elle se fait avec le cœur, hein. Si on n'a pas envie de faire un truc, c'est que ça nous correspond pas et on a beau nous mettre une équipe avec nous, si c'est pas ce qu'on aime faire, on saura pas être le meilleur dedans, on saura pas le défendre. Donc,
pourtant, t'as des personnages derrière qui te cachaient dans
oui.
tes chroniques.
Totalement, c'est vrai, effectivement. Mais
faut faire la chronique de ton père, hein, tu vois.
Oui.
Tu commentes l'actualité, franchement.
Ouais. Alors, faut aimer l'accent de Marseille, hein, parce que c'est vrai que là, il y a un moment donné, si on est un peu fatigué sur l'accent, ça va être fatigant. Donc voilà, mais oui, effectivement, je sais pas, on va trouver, chercher.
Mais c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que ça te fait peur.
De quoi ?
De te lancer dans, par exemple, tu vois, dans cet exercice de chronique.
Ben, je sais pas si ça me fait peur. Je sais, en fait, j'ai pas peur d'y aller parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai peur de me planter sur l'exercice et de pas être au bon poste.
Ok.
Je sais, comme c'est le premier poste qu'on propose aux humoristes, d'une évidence folle en radio, en télé, je sais pas si, entre guillemets, je fais ce qui est évident à faire comme tout le monde, parce qu'on me sollicite, on me propose, j'ai testé, j'ai fait, j'ai machin. Est-ce que je dois suivre mon instinct et dire, c'est pas ce que t'aimes faire, c'est pas ta force, ou de dire, non, et à un moment donné, impose ton univers dans une émission qui te correspond, et oui, il y aura ta force qui va s'exprimer. Je sais pas, c'est ça qui, il y a le doute encore là-dedans.
Ouais.
Mais je pense que j'aurai pas la réponse tant que j'aurai pas trouvé soit le programme qui me permet d'exprimer ça, soit, une carrière au cinéma qui est plus évidente pour incarner des rôles qui, au premier abord, me correspondraient plus, mais c'est un chemin tellement plus élitiste et compliqué. Donc, il ne faut pas attendre ça. On se dit, je le fais en parallèle, En revanche, notre force en tant qu'humoriste, c'est qu'on peut prendre un papier, un stylo, on écrit et on peut être médiatisé sur une parole. Donc, ce serait quand même un peu con de pas le tenter. Et de dire, non, c'est pas pour moi, machin. Et tu te dis, mais est-ce que j'ai peur d'y aller ? Mmh. Est-ce que je trouve pas l'axe, l'angle ? Ou est-ce qu'en fait, la vérité, c'est que c'est pas pour moi ? J'ai pas la réponse encore. Je ferme aucune porte.
Ouais. Je te souhaite de la trouver, en tout cas.
Bah, merci.
C'est vraiment, franchement, j'invite tous les gens qui écoutent à aller voir Pépite. Ça joue donc jusque fin juin ?
Jusqu'au 25 juin.
25 ouais. juin. Tu joues aussi à Rouen le 9 juin. Cette interview sort le 9 juin. Donc, si vous êtes à Rouen ce soir.
C'est ça. Courez au théâtre à l'ouest. À Rouen, voilà, à 20h30.
Et tu as prévu de reprendre à la rentrée, j'imagine, mais tu sais pas encore forcément où, c'est ça?
Alors, je reprendrai en janvier 2023.
OK.
Là, on fait une petite pause de septembre à décembre pour 4 mois. Et puis, je reprends en janvier 2023. La tournée, elle recommence dès le 6 janvier. Donc, il y a plein de dates qui arrivent. Je les annoncerai sur les réseaux sociaux. Et puis, pour Paris aussi, dès 2023.
Je mettrai pour les gens qui le souhaitent aller te suivre sur l'Instagram, par exemple.
Avec plaisir.
C'est Insta, c'est ton réseau préféré, Insta ?
Oui, je poste sur Insta et Facebook.
Okay.
Je poste toujours les deux parce que nous avons deux générations maintenant qui suivent les deux. Mais les anciens aiment beaucoup le théâtre. C'est eux qui utilisent Facebook, ils n'ont plus qu'à cliquer, ils réservent, donc on serait quand même bien bête de ne pas utiliser ce réseau où eux sont très demandeurs surtout. Mmh. Je vois, c'est mes parents qui utilisent Facebook et leurs copains, et eux, ils sortent au théâtre. Ils me disent, mais il faut cliquer où pour acheter le billet ? T'inquiète, je te mets le lien. Donc voilà. Et nous, c'est plus Insta, on a besoin d'images, de sons, de trucs un peu plus esthétiques. Donc voilà.
Et puis bientôt TikTok, parce que...
Oui, alors ça aussi, bien sûr, TikTok, tout ça. Alors, j'y suis pas encore, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc.
Voilà aussi une bonne façon de se faire connaître, hein, mais c'est sûr qu'il faut trouver le ton, quoi. Faut trouver l'angle.
Ouais, l'angle, l'envie, c'est vrai que c'est quelque chose, les réseaux sociaux, quand même. C'est autre chose que faire une chronique en télé, en radio ou tourner au cinéma. Là, pour le coup, j'ai vraiment pas d'adrénaline à me filmer chez moi. Si on est plusieurs, bah oui, ça ressemble à un tournage, donc avec grand plaisir. Ouais. Mais ça demande un projet, une équipe, donc c'est autre chose. Et du coup, ça ressemble à un tournage et moi, ça me va parfaitement, comme je te disais. Mais m'enregistrer seul chez moi, j'ai des copains qui l'ont très bien fait, que ce soit Tristan Lopin, Laura Calu, ou même je pensais à Laura Felpin, je connais très peu, mais et qui s'est vraiment bien débrouillé. Mais on sent que ces gens-là, ils ont l'adrénaline de le faire, comme je te disais, l'adrénaline. Ouais. Moi, j'en ai aucune à ça. Parce que j'aime trop avoir quelqu'un en face, comme je te dis, écouter un monologue, écouter quelqu'un. Mmh. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un en face. Moi, mon mur, ma caméra, ça m'excite pas, quoi.
Ouais, j'imagine.
Mais quel dommage, je passe à côté de l'outil de ma génération, quoi.
Écoute, c'est ton chemin.
Oui, c'est mon chemin. Quelle belle parole.
Merci beaucoup, Marion, c'était super.
Merci.
Bon vent à toi.
Bon vent, oui.
Pire façon de conclure une interview.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.